Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, on tripia. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Être homosexuelle et vouloir devenir maman en 2020, cela donne quoi en France? À l'heure où le sujet de la PMA pour toutes est relancé dans les débats politiques et redonne lieu à des manifestations, j'ai rencontré Stéphanie, maman homosexuelle d'une petite fille. Dans cet épisode, Stéphanie nous raconte tout son parcours pour accéder à la maternité, un parcours en dehors des frontières, entre voyage, déception et un amour plus fort que tout. Bonne écoute.
Bonjour Stéphanie, merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Bonjour.
Alors tu es la maman d'une petite fille que tu as eue en suivant un parcours de PMA, car tu es homosexuelle, et on va donc revenir sur tout ce parcours dans ta maternité. Alors d'abord, depuis combien de temps tu es en couple ?
Alors, ça fait 10 ans qu'on est en couple, bientôt 11 ans même d'ailleurs. On s'est rencontrés pendant nos études d'architecture, donc on était encore toutes jeunes. Et puis la vie a suivi, et 11 ans après, on est toujours ensemble.
Dans quel climat tu vivais en tant qu'homosexuelle, notamment au moment de tout ce qui était Pax, tout le débat sur le mariage pour tous ?
Alors, bah, pour Pax, on était un petit peu jeunes, puisque du coup, c'était en 99, de mémoire.
Mais du coup, est-ce que vous posiez des questions sur l'avenir
Non. Alors, moi, en 99, j'avais 12 ans. Je commençais à me poser des questions, mais c'était très lointain. Ouais. Je me projetais pas plus que ça avec une fille. Enfin, voilà, je me posais des questions, mais dans ma tête, j'en étais pas du tout à ce stade-là. MC est ma première copine, donc c'est venu quand même bien après, puisque du coup on s'est rencontrés en 2009. Par contre, effectivement, les débats pour le mariage pour tous, on va dire que ça nous a un peu sauté à la figure, parce qu'on s'y attendait pas du tout. On n'a pas vécu du coup vraiment les manifestations qu'il y a eu à l'époque du Pax, on n'a pas vécu la montée de l'homophobie qu'on a pu voir. Et du coup, moi c'était notamment, je faisais partie d'une association LGBT à l'époque. J'étais en formation ce jour-là pour l'accueil des jeunes qui se découvrent, et en rentrant j'ai dû passer par la place Bellecour, et là je suis tombée nez à nez avec 30 000 personnes qui manifestaient contre l'ouverture du mariage, et en fait on s'y attendait vraiment pas du tout. Et donc du coup me retrouver, alors que justement je sortais d'une formation pour aider les jeunes, et me retrouver au milieu de 30 000 personnes qui scandent qu'on n'avait pas le droit de se marier, Ça a été d'une brutalité sans nom, quoi. Mmh. C'est d'ailleurs, je pense, là que mon militantisme est passé de « je suis en association » à ce que c'est maintenant, donc je montre ce qu'on est, quoi. Voilà, j'ai passé un cran, je pense, à ce moment-là, parce qu'il était hors de question que je laisse des gens manifester contre ce que je suis, moi, quoi.
Et qu'est-ce qui t'avait donné envie de te mettre justement dans une association ? Qu'est-ce qui était important pour toi à ce moment-là ? Des choses que toi t'avais vécues qui avaient été compliquées ou
Non, alors moi dans mon parcours personnel, j'ai jamais eu ni de soucis ni avec mes parents, ni l'acceptation de personne. Enfin, voilà, il y a personne qui est jamais venu ni me parler, on va dire, méchamment, ni m'insulter, ni... Voilà, il y a eu aucun problème dans mes proches, ni dans mes amis, ni dans ma famille, nulle part. C'est plutôt en fait des témoignages d'autres personnes, notamment d'une copine d'époque qui avait dû changer d'appartement, etc., qui avait un peu précipité son départ de chez ses parents, etc. Et à l'époque, du coup, on avait cherché un petit peu comment les plus jeunes pouvaient s'en sortir, comment ils pouvaient, quand ils étaient en fracture familiale, comment ils pouvaient simplement continuer à vivre. Et du coup, c'était un peu dans cette démarche-là où petit à petit, je suis rentrée dans l'association, au début juste en tant que on va dire bénévole financier. Mmh. Et puis j'ai eu envie, voilà, de m'investir un petit peu plus. Et j'ai un peu arrêté après justement le débat du mariage pour tous parce que ça a été très dur en fait à vivre. J'avais besoin à ce moment-là pour le coup de prendre du recul avant justement de repartir de plus belle. Mais j'ai eu besoin d'un temps de recul où j'ai un peu tout arrêté, voilà, tout barricadé, on attend que ça passe et puis on y va après, quoi.
Et ça, au quotidien, c'était quoi par exemple? Comment ça t'affectait
Bah, au quotidien, c'était les autocollants. Tu prends la voiture le matin pour aller au travail. T'as un quart d'heure, mais tu tombes, enfin un quart d'heure de voiture, mais tu tombes sur des autocollants sur tous les feux rouges, tous les panneaux de signalisation qui appellent à manifester. Tu vas à la boulangerie, tu entends la boulangère qui dit qu'il faut aller manifester, c'est hors de question que la loi passe, etc. Tu vas, dès que tu mets le nez dehors, t'allumes la télé, tu tombes sur les représentants de la manif pour tous. Enfin, ils sont rentrés dans mon quotidien, je pouvais plus rien faire sans qu'il y ait un visage de quelqu'un qui allait manifester contre mon droit de me marier. Mmh. Donc c'était une période, voilà, où tout l'espace public, tout l'espace médiatique, etc. était envahi de la manif pour tous. Et il n'y avait aucun moyen juste d'en sortir, quoi. C'était omniprésent.
Qu'est-ce que tu ressentais en tant qu'individu?
Bah, à partir du moment où les gens ne te connaissent pas, mais qui considèrent déjà que tu vas détruire la famille, détruire le lien sacré du mariage, détruire... Enfin, j'ai juste l'impression d'être une espèce de tornade à titre personnel, alors que les gens ne me connaissent pas. Mmh. C'est et puis la plupart des choses sont basées sur des clichés, sur voilà, quand on discute c'est ah mais oui, mais vous pouvez pas vous marier, vous êtes pas fidèle, ça fait 10 ans que je suis avec la même personne, de quoi tu parles, quoi. C'est basé sur des clichés, c'est basé sur des stéréotypes et c'est fatigant de devoir expliquer aux gens regardez, on est pareil en fait. On est des humains, on est juste pareil.
Et est-ce que toi, ça a pu te freiner dans ton désir de te marier ou de...
Non, au contraire. Moi, ça a plutôt tendance, justement. Tu me dis, non, t'as pas le droit, j'ai encore plus envie d'y aller.
Ouais.
Donc, non, j'ai toujours voulu me marier. Ma conjointe, un petit peu moins. Mais même, en règle générale, le mariage, ça aurait pas été son truc à la base. Mmh. Ça l'a pas empêché de manifester avec moi pour l'ouverture, parce que même si t'as pas envie de te marier, tu peux vouloir avoir le choix. Et donc du coup, non, moi j'en avais, voilà, j'ai un petit peu fait du forcing, c'est sûr, pour arriver à mes fins, mais non, j'ai toujours su que je voulais m'engager, et pour moi l'engagement, ça passait par quelque chose d'officiel.
Et alors, au moment où ça a été accepté, comment t'as vécu cette nouvelle?
Ah bah, le moment où ça a été accepté, on est sortis faire la fête, voilà, comme beaucoup de personnes LGBT. Toujours sur la place Bellecour d'ailleurs, on y est retourné, mais cette fois, à Lyon. Donc avec nos drapeaux, etc. Et puis je sais que moi j'avais, à ce moment-là, j'avais écrit sur Facebook, un jour je me marierai. Je savais pas encore si j'arriverais à la convaincre, mais je savais que j'essaierais, en tout cas.
Et alors, à quel moment est venu le sujet de la maternité dans votre couple ?
Alors, le sujet de la maternité, un peu pareil, moi je savais que je voulais des enfants. Je savais pas encore comment on ferait, mais je savais que je voudrais des enfants. Dans ma tête, il y avait plus un côté, l'adoption, voilà, qui était possible, on va dire, à titre individuel, donc en tant que célibataire, si jamais le mariage passait pas, etc. Donc on avait déjà réfléchi un petit peu à toutes les solutions, ou en coparentalité, ou avec le don d'un copain, enfin bref, c'était flou, mais on savait qu'on voulait essayer. Et en fait, c'est des copines proches qui sont passées par la PMA 2 ans avant nous, ensuite un autre couple de copines, donc on a pas mal un petit peu questionné, voilà, moi je me suis inscrite à la PGL aussi, qui est une association homoparentale. Et puis un peu en glanant des informations à droite à gauche, notre projet s'est un petit peu plus focalisé sur la PMA. Et du coup, après le choix de clinique, etc., voilà, petit à petit, on a un peu tracé notre fil jusqu'au début du parcours.
C'est toi qui as initié le désir de devenir maman, ou c'est ta chérie ?
C'est moi qui ai lancé le sujet la première fois. On rigole souvent en disant que je suis un petit peu la petite pétrolette du couple, c'est-à-dire que moi je fonce. Et après, MC me rattrape et souvent reprend un petit peu les rênes d'ailleurs. Mais c'est souvent moi qui commence par foncer dans le tas, ouais.
Et vous aviez des questionnements par rapport à ce que vous pourriez faire
On avait pas mal de questionnements, déjà sur un peu tout ce qui était légal, parce qu'on savait pas. C'était un petit peu un flirt entre la loi française, la loi espagnole. Qu'est-ce qui est possible de faire en France légalement? À quel moment est-ce qu'on dépasse un petit peu la loi pour tout ce qui est suivi gynécologique, etc. Donc ouais, on avait pas mal de questions là-dessus, pas mal de questions sur le protocole, forcément, parce que on n'y connaissait rien en arrivant dans le parcours. On est tombé sur les bonnes personnes, donc on a été très très vite rassurés, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie avec nos copines qui sont déjà passées par là. Et au final... On a l'impression au début d'être face à une montagne, mais c'est vrai que un pas après l'autre, ça avance assez facilement quand même.
Et alors comment vous avez décidé laquelle des deux porterait l'enfant ?
Ça s'est fait assez facilement en fait, parce que toujours mon petit côté chance dans le tas. Moi j'avais envie de porter et j'avais eu une opération gynécologique quelques années avant qui pouvait mettre un petit peu en danger ma fertilité. C'est quelque chose qui m'avait quand même pas mal touchée, et donc du coup j'étais déjà suivie par une gynéco qui était spécialisée en fertilité, et le fait d'avoir ce premier pas là, de pas être obligée de rechercher quelqu'un qui allait nous aider, etc. pour partir en Espagne, je pense que ça nous a mis un petit peu le pied à l'étrier, et j'avais surtout cette envie de porter que ma femme à cette période là n'avait pas spécialement. Voilà. On savait par contre dès le début que si pour une prochaine grossesse elle allait avoir envie, ça serait elle qui prendrait le relais à ce moment-là.
Et alors comment tu te sens quand tu souhaites devenir maman et qu'en France ce n'est pas possible quand tu es homosexuelle ?
Eh ben t'es un petit peu justement hors la loi. S'il y a un petit côté. Alors il y a un petit côté un peu grisant dans le sens où. Un peu euphorisant on va dire, dans le sens où tu fais quelque chose. Et tu sais que c'est un petit secret entre le médecin, entre la clinique. Enfin voilà, il y a une espèce de petit côté un peu agent secret entre guillemets qui est assez euphorisant. Mais par contre, effectivement, à côté de ça, quand tu à chaque examen avec quelqu'un qui n'est pas au courant justement, tu pries pour pas qu'on te pose de questions et pour pas être obligé d'inventer un nouveau mensonge. Et si tu peux vraiment pas mentir et qu'il faut que tu dises la vérité, tu pries pour que la personne en face soit plutôt sympa et que du coup, pour certains examens, qu'elle cherche pas à te faire un petit peu mal. Parce qu'il y en a des fois qui piquent du coup un petit peu plus sauvagement une fois que t'as déjà dit que t'étais lesbienne et que tu partais en Espagne. Ouais, ça arrive. Donc du coup, c'est une espèce de pas de jugement, mais comment dire... On essaye de jauger un petit peu la personne qui est en face, de savoir à qui on peut essayer d'en parler, à qui on peut pas en parler, et voilà. Et c'est assez stressant au final, parce qu'on sait jamais à qui on peut faire confiance. On espère que du coup ça va pas aussi entraîner quelques problèmes justement pour la personne qui nous suit, parce que justement cette personne-là aussi on la met un petit peu en porte-à-faux par rapport à la législation. Et puis après, effectivement, le parcours il est ce qu'il est, hein. C'est compliqué moralement, c'est compliqué physiquement. On ajoute à ça que moi j'ai un centre PMA par exemple qui est à 20 minutes de chez moi, mais il faut que j'aille au moins 36 heures à l'autre bout de l'Europe, ou pour nous c'est l'Espagne donc c'est pas si loin, mais je pense à celles qui vont au Danemark ou en Belgique, etc., où c'est pas forcément accessible. 36 heures c'est court pour trouver un billet d'avion ou pour y aller en voiture, c'est compliqué, ça reste compliqué. Et puis effectivement il y a un petit côté sous-citoyen entre guillemets, on n'a pas le même droit que les autres. Et c'est un peu pour les mêmes, par exemple, moi comme dit, j'ai eu un souci de fertilité avéré, ma femme aussi. On serait hétéro, toutes les deux, on aurait le droit à la PMA en France. On est ensemble, on n'y a pas le droit. Donc quand on nous dit souvent oui, mais la PMA, vous n'êtes pas malade, etc., si, en fait, on peut aussi souffrir de pathologies, on peut aussi avoir exactement les mêmes soucis, c'est juste que nous, on nous dit d'emblée, ok, vous êtes ensemble, c'est mort, quoi. Débrouillez-vous autrement.
Un sentiment de rejet, d'exclusion.
Ouais. Un petit sentiment de rejet, bien sûr, parce que en même temps, on a donc on va dire ce règlement qui nous dit non, vous n'y avez pas le droit. Par contre, à côté de ça, on nous demande à nous aussi d'être solidaires de la même manière que tout le monde. C'est-à-dire que la sécu, pour nous, on n'a pas d'abattement de la sécu parce qu'on est lesbienne et que du coup, on n'a pas le droit à toutes les aides. Non, ça marche pas comme ça. On est tous solidaires. Bon, ben, par contre, toi, t'as pas le droit aux aides.
Et alors, quelles ont été les premières démarches ?
Eh ben, les premières démarches, le choix de la clinique, parce que...
Donc, pour vous, c'était l'Espagne par rapport aux autres couples que vous connaissiez ?
Ça a beaucoup aidé. Le fait de connaître des femmes qui sont passées en Espagne et par la même clinique, et surtout où ça a fonctionné, ça donne un espoir qui est assez important dans le parcours PMA, parce que le fait d'y croire, ça permet de tenir moralement, surtout après de plusieurs échecs.
Il y a la Belgique, l'Espagne.
Il y a la Belgique, l'Espagne, il y a le Portugal, il y a le Danemark, il y a le Royaume-Uni, mais je connais pas exactement. Je sais pas si les Françaises ont le droit d'aller. Je sais que c'est ouvert pour les Anglaises, mais je sais pas si. J'avoue que j'ai un petit doute, mais bref. Donc il y a plusieurs pays. Après, nous, il y avait beaucoup la situation géographique qui nous a aidés aussi. Le fait de connaître effectivement des avis sur la clinique. Et par rapport à la Belgique, où il y a un temps d'attente un peu plus long, il y a dans certaines cliniques des rendez-vous avec un psy avant de passer en commission pour éventuellement avoir le droit de passer en PMA.
Ça, il n'y en a pas en Espagne ?
Il n'y en a pas en Espagne.
D'accord.
Et du coup, comme à ce moment-là, on n'était pas spécialement non plus... c'est pas qu'on était mal à l'aise avec le sujet, mais on n'avait pas envie d'être jugé par des gens qui ne nous connaissaient pas. On voyait ça comme un jugement, c'est pas forcément le cas, hein. C'est vraiment notre ressenti à nous. On avait un peu peur de ce côté psy imposé, on va dire. Et du coup, on a préféré se tourner vers l'Espagne. Après, pour des questions techniques aussi, pour des questions de suivi, on sait qu'en fonction des cliniques, il n'y a pas forcément le même suivi folliculaire, il n'y a pas forcément le même suivi, les mêmes doses de stimulation, les mêmes... Moi, je voulais partir sur un cycle naturel au début, ce qui était justement possible avec la clinique avec laquelle on est parti, et donc voilà, c'est un peu on a fait une espèce de tableau Excel de tous nos critères, et on en a sorti une des cliniques qui était celle qui nous a suivi pour notre premier parcours.
Et alors on commence par quoi ? Tu contactes la clinique et qu'est-ce qui se passe ?
On se connecte sur le site, on prend un petit rendez-vous, un rendez-vous téléphonique pour le premier avec la clinique justement, on fait un petit peu le point, ils nous envoient une liste d'examens médicaux à réaliser, de préférence à réaliser avant d'aller en Espagne pour la première fois, pour faire le point. Donc du coup, on a commencé, on a eu ce rendez-vous-là, on a eu notre petite liste, on a pris rendez-vous avec notre gynéco, et le mois d'après, on a commencé les examens, pour les avoir tous pour notre date de rendez-vous en Espagne. Après, du coup, il y a le rendez-vous en Espagne avec lequel on fait le point... On rencontre les médecins pour la première fois, donc on fait le point justement sur la fertilité à ce moment-là, sur les protocoles qui vont être mis en place. Ils nous expliquent exactement comment ça va se passer, les contrôles folliculaires, les prises de sang, quand est-ce qu'il va falloir les faire, comment on leur envoie les résultats, comment après on met en place le suivi, parce que mine de rien, on va chez le gynéco tous les deux jours en moyenne, on fait des prises de sang tous les deux jours, enfin voilà, ils nous donnent quelques astuces pour arriver à mieux organiser et à mieux gérer ce parcours qui est quand même assez prenant. Et après ça, on s'est lancé le mois d'après.
D'accord.
Voilà.
Et au niveau perso, pro, comment tu t'es organisé pour tout ça ? Parce que j'imagine que ça prend du temps.
Ouais, alors au niveau professionnel, j'ai eu la chance. J'en ai tout de suite parlé à mes collègues. Ouais, j'en ai parlé à mes collègues assez rapidement. Et mon chef a compris, donc il est venu m'en parler de lui-même. Et donc j'en ai profité justement pour leur dire que j'allais sûrement devoir partir à certains moments du jour au lendemain. Mais j'avais besoin que si ça se passe comme ça, parce que ça peut tomber des fois le week-end si ça tombe bien, mais ça peut tomber n'importe quel jour de semaine. Et j'avais besoin de leur expliquer pourquoi je l'ai laissé un petit peu tomber si jamais ils devaient prendre le relais sur certains de mes projets de travail. Et j'avais besoin qu'ils puissent m'épauler, on va dire, en connaissance de cause. Voilà. Je pense que le fait de savoir, le fait de comprendre, en tout cas, ça me permettait à moi de recevoir un soutien de leur part, qui était peut-être plus facile de demander, vu les circonstances, que juste leur dire « écoutez, je suis pas là, démerdez-vous ».
Ouais.
C'est peut-être un petit peu cash, mais... voilà, et après, mon chef a été assez chouette, parce que, justement, il m'a permis... d'adapter un petit peu mon emploi du temps. Je suis venue travailler les week-ends pour rattraper, et en échange, il m'embêtait pas trop sur les dates de départ.
Ouais. Voilà. Il faut avoir un employeur quand même.
Vaut mieux avoir... C'est plus simple que d'inventer, une excuse bidon. En tout cas, dans mon cas, c'était plus simple que tout le monde soit au courant, et j'ai eu la chance effectivement qu'il soit plutôt open là-dessus, quoi.
Et alors, comment se passe la première insémination ?
Et du coup, pour la première insémination, tu as donc le suivi folliculaire qui se fait en France. La gynéco te donne tous les résultats à chaque échographie. Donc du coup, tu les transmets à la clinique. Et puis, quand c'est le bon moment, il y a une piqûre qui déclenche l'ovulation. Et donc là, à partir du moment où tu fais cette piqûre, tu as 36 heures pour être en Espagne, parce que l'insémination aura lieu 36 heures exactement après. Donc du coup, branle-bas le combat le soir, forcément pour trouver un billet d'avion, etc. Donc première insémination, c'était trop tard, on n'a pas trouvé de billet d'avion. Donc on est parti tout de suite en sortant du travail en voiture, on a fait un petit stop sur la route pour pas se faire les 7 heures de 6 ou 7 heures, je sais même plus, de voiture d'un coup. On est arrivé sur place avec les bouchons, il devait être midi pour une insémination à midi et quart ou quelque chose comme ça, donc un petit peu stressant. Puis tu sais pas trop, enfin tu sais à peu près comment ça se passe, mais entre ce que tu sais et la vérité, enfin il y a toujours C'est pas le moment où t'es le plus à l'aise, hein, quand t'es chez le gynéco, faut le dire quand même. Et puis après, on n'avait pas le choix, on retravaillait le lendemain, donc on a fait l'insémination, on est resté peut-être un quart d'heure dans un petit jardin en bas de la clinique, et on a repris la route parce que on avait de nouveau 7 heures de voiture en sens inverse, quoi. Donc il y avait la première, t'as forcément une petite excitation de... T'as beaucoup d'espoir sur la première en plus, même si tu sais... que statistiquement, il y a quand même très peu de chances que ça marche au premier essai. T'as toujours envie de croire au one shot, t'as envie de te dire « chez moi ça va marcher » et d'y croire, quoi. Et puis finalement, non.
Tu l'as su au bout de combien de temps que ça avait pas marché ?
Et tu as les résultats assez rapidement parce que, c'est 14 jours après l'ovulation.
D'accord.
Donc tu comptes le premier jour, le lendemain de l'insémination, et puis deux semaines après, tu as les résultats.
Alors comment tu vis cette première déception ?
Le premier, pour moi, je veux dire, ça a été presque le plus simple au final.
Ouais.
Parce que, comme dit, t'essayes de te raisonner quand même, et tu te dis, statistiquement, tu sais que voilà, c'est entre guillemets un coup pour rien. On y va, on essaye. Si ça marche, il y a vraiment beaucoup de chance, mais tu sais quand même que, Donc le premier, pour moi, c'était comme si, en fait, il fallait qu'on passe par le premier. Et comme les statistiques commencent à être mieux, on va dire, à partir du deuxième ou troisième essai, pour moi, c'était un peu le « bon, on y va, mais on sait très bien que c'est pas celui-là qui... Mmh. » Voilà, on y va parce qu'on est obligé, c'est une case, peut-on passer directement au deuxième essai, quoi. Mais au final, c'est pas le deuxième non plus. Le troisième, par contre, je l'ai vraiment pris dans les dents. Parce qu'en fait, pour toutes mes copines, ça avait marché au troisième essai.
Ah.
Et dans ma tête, c'était sûr, le troisième essai, ça allait marcher. Et en plus, ça tombait, on avait la réponse le lendemain de l'anniversaire de ma conjointe, et du coup, ça... dans ma tête, ça faisait un tellement beau cadeau que c'était sûr, ça allait marcher à ce moment-là. Et finalement, non. Et celui-là, il a été un petit peu dur à encaisser, et c'est là où quand je dis que souvent, je fonce dans le tas, et après, j'ai ma conjointe qui a les épaules derrière... C'est vraiment elle qui m'a pas laissé une demi-seconde déprimée. On a fait le test, je suis revenue, je lui ai dit que ça avait pas marché. Elle m'a dit c'est pas grave, elle m'a pris, on est allé faire 14 km de kayak. Et en revenant, on a fait une randonnée, je sais plus, de 15 ou 16 km, un truc comme ça. Donc il était hors de question que je reste cogitée. Et puis elle a raison, parce que ça marche. C'est le fait de bouger et de se remotiver qui permet de se dire on va recommencer, quoi.
Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es un peu baissé les bras, où tu t'es dit que c'était injuste de pas avoir accès à ça en France et de devoir te déplacer tout le temps ?
Non, j'ai essayé de pas trop y penser à ça. J'ai essayé de pas trop penser au fait que la France nous permettait pas d'accéder à ce parcours-là. Je me suis plutôt concentrée sur le fait que l'Espagne nous permettait justement de le faire.
Ouais.
Donc tu t'accroches un peu à ce que tu peux, entre guillemets. Hein. Mais le fait d'être dans une clinique qui a quand même beaucoup de patients français, que ce soit hétéro ou homo ou célibataire, quand t'arrives et que dans les salles d'attente tu entends des couples qui parlent en français, etc., il y a un côté où c'est assez rassurant. Et puis, il faut dire aussi que l'Espagne est vraiment à la pointe en tout ce qui est procréation médicalement assistée. Et souvent, bah, des couples hétéros qui arrivent en fin de parcours en France finissent par aller en Espagne parce que ça leur offre d'autres chances, d'autres techniques qui sont pas ouvertes en France à l'heure actuelle, qui sont en débat dans les lois de bioéthique, mais voilà, qui pour l'instant en tout cas sont en stand-by, qui sont autorisées en Espagne. Et du coup, on se dit, bah voilà, que on est un petit groupe, peu importe quelles sont nos pathologies, quelles sont nos couples, nos vécus, enfin voilà, on est plusieurs à devoir y aller. Et en fait, il y a plutôt des groupes d'entraide de filiates espagnoles qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, on essaye de sortir vraiment, ouais, voilà, le côté positif du fait d'aller dans un autre pays, quoi.
Quel était le délai entre deux inséminations ?
Alors, ça dépendait des essais. J'ai fait mes deux premiers essais sur cycle naturel. Du coup, j'ai enchaîné, c'était mars et avril. Le troisième était avec une simulation que j'ai pas très bien vécue. Donc mars, avril, mai.
La stimulation
hormonale. Donc, c'est des piqûres d'hormones, hein, tous les jours, à heure fixe. Donc tous les soirs, la petite piqûre dans le ventre, tu commences à avoir des bleus un peu partout. Et puis, moi c'était en plein été, et il faisait chaud, je commençais à avoir les jambes lourdes qui se gonflaient d'eau. Enfin voilà, c'était la première, je l'ai très mal vécue.
Et pourquoi t'as dû passer par la stimulation ?
Je suis passée par la stimulation parce qu'au bout de deux échecs, j'avais besoin qu'il y ait quelque chose qui change dans le protocole. Pourtant les résultats étaient bons, hein, j'avais aucun souci là, on va dire médical à ce moment-là. Mais moralement, j'avais besoin qu'il y ait un changement pour me redonner un peu d'espoir, justement. J'avais besoin d'un petit quelque chose qui me disait « Regarde, on a changé les choses, ça va marcher. » Et donc du coup, c'est passé par la stimulation, qui était vraiment à petite dose, hein, parce que c'était la dose mini, enfin vraiment mini, qui existe. Mmh. Ça a quand même suffi à me détraquer un petit peu.
Ah oui.
Et donc du coup, à ce moment-là, j'avais dit à ma conjointe « Quoi qu'il arrive, si ça marche pas, tu me laisses pas partir sur le cycle prochain, j'ai besoin d'une pause. » Parce qu'au moment où après il y a le négatif qui arrive, on a envie d'enchaîner justement pour se redonner un peu espoir, etc. Mais là, je sentais vraiment que mon corps avait besoin que je dise stop un cycle, un mois donc. Et j'avais vraiment j'avais besoin qu'elle soit un peu mon Jiminy Cricket qui me dise rappelle-toi, tu as dit repose-toi, tu te reposes un mois et tu repars.
C'était quoi tes symptômes ? C'était de la fatigue ?
C'était de la fatigue, c'était des bouffées de chaleur, c'était les jambes gonflées, c'était une mauvaise circulation. J'ai eu pas mal de vertiges et de nausées. Ouais, voilà, et puis avec tout mélangé, tu dors mal la nuit, j'étais hyper irritable, la pauvre, enfin, je l'ai engueulée pour des trucs qui n'avaient aucun sens, aucune raison, mais juste, c'était, j'arrivais pas à me contrôler, quoi. Désolée MC. Mais ouais, c'est des hormones, donc forcément, ça joue sur ton moral, ça joue sur tes humeurs, ça joue sur ta vie au quotidien. Ouais, et là, j'avais besoin d'un break. Et on est reparti le mois d'après sur un quatrième essai, auquel je croyais pas du tout, parce qu'en Espagne, souvent, à partir de 4 ou 5 essais, on commence à sérieusement parler de FIV. Et du coup, j'ai essayé de me projeter là-dedans en me disant « Bon, bah comment on va s'organiser ? Ça va être encore plus compliqué. » Et j'étais vraiment dans le... Je suis allée, hein, j'y suis allée, j'ai fait cet essai, etc. Voilà, mais j'étais vraiment dans l'après, en fait, à ce moment-là. J'étais dans « Bon, bah de toute façon, voilà, on va aller en FIV. Tant pis, je fais l'essai qui me permet d'y aller, mais voilà, je le fais. » Et j'y croyais absolument pas du tout. J'avais tous les symptômes du cycle qui arrive, syndrome prémenstruel, enfin tous, voilà. J'ai quand même fait le test, histoire de dire que je fais un test. Et il s'est avéré positif. Donc je ne m'attendais pas du tout à ce moment-là. Mais comme quoi on peut ne pas arriver à interpréter ce qui se passe.
Comment t'as réagi, du coup ?
Et je m'étais dit dans ma tête que si c'était positif, je dirais rien à MC. Surtout que j'avais testé un jour avant la date où on devait tester. Je m'étais dit que je lui dirais rien, que j'irais faire la prise de sang qui confirme. Et que je lui ferai la surprise le soir. Le test positif, j'ai tenu à peu près 10 secondes. Et je suis allée la réveiller en lui disant « Je suis désolée, faut que tu m'épouses. »
Ah oui.
Parce que forcément, pour qu'elle puisse adopter, il fallait... Voilà, donc comme dit, ça faisait des années que j'essayais de la faire céder sur le mariage, donc là c'était un peu le maintenant t'as plus le choix. Elle a tout de suite compris, donc il était 5h du mat, mais elle a tout de suite connecté, hein. Et donc bah du coup c'était un peu la surexcitation, voilà, donc je l'ai réveillée, on s'est préparé, puis je suis allée faire ma prise de sang qui confirmait. J'étais une demi-heure avant l'ouverture du labo, je crois, devant le labo, en mode allez-y, piquez-moi.
Et après, ça a été confirmé.
La prise de sang a confirmé. On a dû en faire 3 au total pour être sûr que le taux évolue correctement, ce qui était le cas. Et puis très rapidement, on a eu la première écho de datation où on a pu voir le petit sac, voilà, et les premiers battements cardiaques. Et donc bah là, c'était le premier début d'une nouvelle histoire, quoi. Mmh. T'essayes d'y croire, tu t'accroches en te disant que bah ça y est, c'est lancé, et puis.
Et alors, une fois que tu tombes enceinte, t'as plus de contact avec la clinique espagnole. Tout se passe en France à partir de ce moment-là, comme un cycle.
C'est ça. À partir du moment où on est enceinte en France, c'est le gynéco français qui prend le relais. Il y a plus de problème. On est suivi par la Sécu. Tout est remboursé comme n'importe quelle femme enceinte. On a quand même gardé contact avec la clinique. Ils nous demandaient régulièrement des nouvelles. On leur envoyait les comptes rendus d'échographie, etc. Ils ont suivi toute la grossesse. Ça nous a permis justement de garder contact avec nos médecins là-bas aussi, mais tout le suivi se fait désormais en France, comme n'importe quelle femme. Voilà.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse?
La première grossesse, bah, s'est passée parfaitement. On va mettre de côté le diabète gestationnel et voilà les problèmes de femmes enceintes, mais c'était une grossesse relativement tranquille. J'ai été arrêtée assez tôt dans ma grossesse parce que bah, moi je suis assez petite de taille et ma fille n'était pas petite du tout. Donc on n'était pas totalement compatibles, c'est pour ça qu'elle est née un petit peu en avance d'ailleurs. Mais globalement, voilà, une grossesse assez sereine, suivie comme le reste de la grossesse, assez tranquille. On n'a eu aucun souci avec les gynécos qui nous ont fait les différentes échographies. On n'a eu aucun souci à la maternité pour le suivi. On n'a eu aucun souci le jour de l'accouchement. Enfin voilà, à partir de là, tout le monde nous a vus comme bah, voilà, les deux mamans de notre fille, quoi.
Vous êtes senties bien accueillies toutes les deux
On s'est senties bien accueillies. Même notre fille a dû être en soins intensifs les premiers jours. Donc du coup la petite anecdote, c'est bah, moi qui vais qui sonne au soin intensif en disant bon bah c'est la maman d'Alix, ma femme qui arrive une demi-heure après qui sonne qui dit c'est la maman d'Alix, et là j'ai vu l'infirmière qui me regarde et l'auxiliaire qui justement était avec moi à ce moment-là qui lui a répondu oui l'autre maman d'Alix, et donc du coup elle a dit ah d'accord, voilà, et puis elle est passée à autre chose totalement normalement, mais c'était, voilà, ça nous a fait sourire parce qu'effectivement c'était la première fois où on se disait ah bah oui, c'est vrai qu'on est deux en fait.
Et alors le retour à la maison, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Ouais, alors le retour à la maison, donc on est resté quand même une semaine du coup entre les soins intensifs, l'unité kangourou, etc. À l'hôpital, et quand on a eu le droit de sortir, ouais, du coup, c'était à la fois bah, le saut dans l'inconnu et bah, comme j'imagine toutes les mamans, l'envie de bien faire les choses, etc. Et en même temps, une sorte de zénitude. Il faut dire que notre fille était très calme. On a mis, je crois, 2 ou 3 semaines avant de l'entendre pleurer pour la première fois. Et donc, du coup, j'avais même envoyé un message à mon sage-femme pour lui demander si c'était normal qu'elle pleure pas, parce que ça me paraissait bizarre. Elle dormait assez paisiblement, on n'a pas eu de pleurs de décharge, etc., de ce genre de choses le soir. Et donc en fait, elle a été tellement calme que nous, on était super calmes. Je pense que ça a beaucoup joué, mais du coup, on s'est approprié ce nouveau rôle assez facilement. Ouais.
Donc là, toi, tu avais un congé maternité?
Moi, j'avais un congé mat, ouais.
Et ta femme l'avait?
Et si, ma femme a eu le droit, parce qu'avec la loi du mariage pour tous, c'est plus un congé de paternité, c'est un congé d'accueil de l'enfant. Et donc, à partir du moment où on habite dans le même foyer et qu'elle est salariée, ma femme a eu le droit aux 11 jours plus les 3 jours de la convention, donc ça, il n'y a eu aucun souci. Par contre, elle n'aurait pas eu le droit de prétendre à un congé parental.
Et donc toi, t'as pris un congé maternité de combien de temps ?
J'ai pris jusqu'aux 6 mois de ma fille.
D'accord.
Voilà, j'avais envie de rester un petit peu avec elle. MC avait aussi cumulé un petit peu de vacances, donc du coup, on en a profité pour partir un petit peu et se retrouver vraiment toutes les trois. Et du coup, ça tombait bien parce que je reprenais en septembre, donc à la rentrée, et puis... la nounou, ça lui convenait bien. On avait trouvé une nounou qui acceptait de nous la prendre. Bah pareil, parce que du coup, on se pose quand même des questions. On n'a pas envie que les gens qui s'occupent de notre fille soient un peu en porte-à-faux par rapport à la situation. Donc on avait fait des recherches où on avait précisé deux mamans et qu'on ne voulait pas que ça mette de froid. Pour toutes les questions un petit peu d'activité, ne serait-ce que pour la fête des mères ou ce genre de choses. Bah,
vous avez eu des refus par rapport à ça ou pas?
On a eu un refus de quelqu'un qui nous a dit: écoutez, moi je suis croyante, je me sens pas du tout à l'aise avec la situation, je préfère vous le dire, et à la limite je peux le comprendre, je préfère que ce soit dit. Après, à côté de ça, très très gentil, hein, elle m'a souhaité de trouver, elle m'a souhaité tout le bonheur du monde dans ma vie, mais elle, ça l'a dérangée au quotidien, donc très bien, on est passé à quelqu'un d'autre. Et non, après, on a eu quand même beaucoup plus de gens qui nous ont dit « aucun souci, aucun souci ». On a déjà eu le cas, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit « on a eu d'autres enfants avec deux papas, deux mamans, une maman solo ». Enfin, voilà, c'était, au final, un peu comme toutes les familles, quoi.
Et alors, la différence, c'est que toi, tu es la maman de votre petite fille, mais ta compagne ne l'est pas dans la filiation.
Alors, à ce moment-là, ma femme n'était pas reconnue dans la filiation, effectivement. Sur l'extrait de naissance ou sur le livret de famille, j'apparaissais seule avec ma fille, et j'avais un autre livret de famille où le mariage était noté, du coup, avec ma conjointe. Il a fallu, du coup, on s'est mariés pour accéder à l'adoption. Parce qu'en France, pour justement pouvoir accéder à l'adoption de l'enfant de conjoint, il faut être marié. Donc on s'est mariés, et une fois que ma fille avait 6 mois, on a fait le dossier, on est allé chez le notaire pour faire un consentement à l'adoption, pour dire que j'étais bien d'accord pour que ma conjointe adopte ma fille. On a attendu, il y a un délai de rétractation de 2 mois, au cas où je change encore d'avis à ce moment-là. On a attendu les 2 mois, et puis entre-temps, du coup, on avait monté tout le reste du dossier, où on nous demande des témoignages de nos proches, de tiers, de... c'est famille, proches et tiers.
Quel genre de témoignages ?
Des témoignages qui expliquent, j'ai vu MC prendre soin d'Alix, je l'ai vu changer la couche, je lui ai vu lui donner le biberon, enfin voilà. C'est vraiment très factuel, mais il fallait qu'on prouve qu'MC s'occupait au quotidien d'Alix depuis qu'elle était née. Donc on a eu la nounou qui nous a fait une lettre, nos familles, des proches, et puis on a dû faire un dossier témoignage photo aussi, donc avec des photos de nous. On nous avait conseillé de mettre des photos un peu de notre histoire aussi, donc nous, il y a 10 ans, jusqu'au moment de MC avec le masque dans la salle d'accouchement, on a retracé du coup toute notre histoire pour montrer que c'était un projet qui était... prévu de longue date, mais qui était réfléchi, et que MC jouait son rôle depuis la conception même de notre fille. Et donc on a donné ce dossier, on l'a déposé au tribunal de grande instance, et on a eu la réponse. Alors on a d'abord eu des demandes de pièces complémentaires, et ensuite 3 mois après, on a eu, donc ça faisait au total, ça a pris 8 mois pour qu'on ait le fameux papier qui dit que l'adoption a été accordée. À partir de là, ils ont envoyé le dossier en mairie pour que l'état civil soit mis à jour. Donc on en est là maintenant. Donc là, il faut qu'on aille en mairie pour mettre notre livret de famille à jour, et qu'on en profite du coup pour faire des papiers aux deux noms de notre fille, puisqu'elle porte maintenant nos deux noms de famille.
D'accord.
Donc désormais, c'est écrit, c'est bien écrit. On apparaît toutes les deux sur son acte de naissance. Et elle a exactement les mêmes droits que moi dans la filiation de notre fille.
Et alors, comment ça se passe dans la société actuelle d'être maman homosexuelle ?
Dans la société, ça dépend. Globalement, au quotidien, on n'a aucun souci. que ce soit dans la rue, que ce soit avec, comme dit la nounou, la crèche, quand elle a été temporairement à la crèche, on n'a aucun souci. Il n'y a jamais eu une réflexion, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre, ou des gens qui nous montent dans la rue, ou je sais pas, enfin voilà. On n'a jamais eu ça. Par contre, à côté de ça, bah, y a les débats actuellement sur la PMA pour toutes. Mmh. Et là, bah, du coup, j'ai repris un petit peu mon rôle militant, justement pour montrer qu'en fait, on est une famille vraiment comme les autres au quotidien.
Alors, tu peux rappeler ce que sont les débats
Alors, les débats sur la PMA pour toutes, c'est justement bah, le fait d'ouvrir la PMA à toutes les femmes.
En France,
donc les femmes célibataires et les couples de femmes. Et donc du coup, bah, faciliter un petit peu le parcours, on serait plus obligé de partir à l'étranger. Et un point important aussi, c'est que la filiation serait reconnue dès la naissance de l'enfant, et donc on aurait pu passer par tout ce parcours d'adoption de l'enfant de conjoint. Et donc, bah, dans la société, donc... au quotidien, comme dit, ça se passe très bien. Par contre, et bah, sur les réseaux sociaux, sur... tous les mois, il y a aussi une nouvelle action de la manif pour tous, etc. Donc bah, ça relance de nouveau dans la société la question du droit des personnes LGBT. Ça relance aussi le fait que tout le monde pense avoir le droit de donner son avis haut et fort sur la question. Et donc du coup, bah, c'est régulièrement que des gens que je ne connaisse pas m'écrivent sur les réseaux pour me dire... que je suis égoïste, que c'est n'importe quoi, enfin voilà, c'est que j'ai privé ma fille de son père, que, enfin voilà, plein de choses. Ma fille, elle a pas de père, elle a un donneur, certes, mais il a aucun rôle. Être père, c'est un rôle social, c'est être là la nuit, c'est être là quand il veut s'endormir, c'est être là pour faire des câlins, pour jouer au foot, etc. Et c'est pas son donneur qui a ce rôle-là, c'est ma femme qui, et moi d'ailleurs, hein. Mais c'est nous qui sommes là au quotidien, c'est nous qui l'avons désiré, etc. Alors oui, il y a un homme qui, dans un autre pays, a fait un don de sperme, c'est sûr, on ne peut pas l'effacer, et clairement, je le remercie, enfin voilà.
C'est grâce à lui.
C'est un don anonyme, ouais. L'Espagne oblige l'anonymat du donneur.
D'accord.
Alors on a une fiche avec des données non identifiables, quelque chose comme ça. Donc on sait, voilà, on connaît son phénotype, on connaît sa taille, on connaît son poids, on sait qu'il avait 33 ans à l'époque du don, enfin voilà, on a une fiche sur lui, mais on sait pas qui c'est. Et du coup, je le remercie, mais pour l'instant, tant qu'elle, elle fait pas la demande de le connaître, son rôle, il s'arrête là. Donc après, bah, ça sera notre histoire, en fait, ça regarde pas les autres, mais justement, c'est eux qui veulent... C'est les gens qui essayent de juger, qui veulent t'expliquer, etc. Mais en fait, ils n'écoutent pas les premiers concernés. Et les premiers concernés, c'est les enfants. Et eux, bah, certains sont déjà adultes, puisqu'il y en a des premières PMA en Belgique, c'était début des années 90. Du coup, il y a déjà des enfants qui ont mon âge ou qui sont même plus âgés que moi, et qui du coup sont en mesure de parler, de faire un retour. Et bah quand on les écoute, en fait, ils ont pas souffert de l'absence de leur donneur. Ils ont souffert éventuellement de l'anonymat du don, qui est pour parler à l'heure actuelle dans les débats, justement. Et ils ont souffert du fait qu'on les monte du doigt parce qu'ils avaient une famille qui était pas normale, entre guillemets, qui était pas dite acceptable dans la société à ce moment-là, hein, surtout les années 90. C'était avant le Pax, hein, il y avait pas de reconnaissance de la famille homoparentale à ce moment-là. Hein. Donc voilà. C'est la société qui fait souffrir, c'est pas nous, en fait.
Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes, justement, qui sont contre la PMA pour toutes ?
Je sais pas si j'ai vraiment envie de leur dire quelque chose de particulier, si ce n'est on est comme tout le monde, en fait. On est comme tout le monde, ma famille elle est comme tout le monde. On se lève le matin, on se brosse les dents, on se prépare, on prend le petit-déj, on va chez la nounou. Nous, on va travailler, on la récupère à la sortie, voilà. On rentre, on fait à manger, on prend le bain, on se relave les dents. En fait, notre quotidien, il est absolument comme le quotidien de toutes les familles. C'est... voilà, et puis, peu importe leur avis, honnêtement, ça change pas grand-chose dans le sens où... moi, le soir, quand Alix, elle va se coucher et qu'elle nous fait notre câlin à trois... ou quand le soir on est à table et qu'on est en train de discuter et que d'un coup elle voit qu'elle n'est pas le centre d'attention et que du coup elle hurle maman et elle nous regarde l'une après l'autre pour voir laquelle va réagir en première, parce que juste après, et qu'après elle fait, elle, on a toujours ce petit jeu un peu de maman MC, maman Stéphie, etc., où elle nous montre l'une l'autre. Ma fille, elle sait qui est sa famille, elle sait qu'elle a deux mamans, voilà, c'est notre histoire à nous trois, et si quelqu'un doit un jour nous en vouloir ou nous faire des remarques sur nos choix, sur notre décision de faire famille, ça peut être que elle. C'est pas des inconnus sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. C'est eux, ça les regarde pas, en fait. Moi, je vais pas juger leur famille, et ils ont pas jugé la mienne.
Et donc là, vous vous relancez dans un parcours de PMA.
Et là, on se relance dans un nouveau parcours, ouais.
Donc les débats, parce qu'on en parlait, il y en a eu là ces derniers temps, ça a pas donné encore l'ouverture.
Alors la PMA a été votée à l'heure actuelle en première lecture à l'Assemblée. Mais le temps que ça fasse la navette, que ça retourne au Sénat, que ça revienne à l'Assemblée, que ça retourne au Sénat, que ça soit enfin voté, que ça soit promulgué, à mon avis, il ne se passera rien au moins avant l'été 2020. Quand on considère qu'il y avait déjà un certain délai pour les dons, le temps que voilà, les nouveaux donneurs se mettent en place, que du coup les femmes soient intégrées dans les SECOS ou dans les centres privés, etc., ça, voilà, pour nous, ça repousse à au moins 2021, à mon avis. J'espère me tromper, hein, j'espère qu'il y a des femmes qui y accéderont avant, mais en France, j'y crois pas trop. Et on n'a pas envie d'attendre. On n'a pas envie d'attendre, on n'a pas envie de refaire les examens qu'on a déjà fait, on n'a pas envie... voilà. On est très bien suivi là où on est. Alors c'est sûr, c'est plus compliqué. Mais on se relance en Espagne, pour le coup. On n'a pas envie d'attendre qu'enfin on nous dise... Ok, vous avez le droit, quoi. Là-bas, on a le droit, on a déjà notre suivi, on a nos habitudes, entre guillemets. Ouais. Et quand on voit notre première fille, on leur fait confiance pour le second parcours.
Et vous pouvez prendre le même donneur ?
On avait le même donneur. Justement, on sait pas, là. Parce qu'on a utilisé nos dernières paillettes, et on sait pas s'il est encore donneur ou pas. Donc on sait pas s'il sera encore donneur. Voilà. Les premiers, on a utilisé nos paillettes pour les premiers essais, là qui sont avérés négatifs. Et donc du coup, bah, c'est un peu la rupture de stock, et on sait pas voilà, s'il est encore donneur, s'il a atteint le quota, parce qu'il y a un quota aussi national d'enfants qui peuvent être issus d'un seul donneur. Donc si entre temps, et bah, du coup, il a atteint le quota, je crois que c'est 5 enfants en Espagne. On n'a plus le droit d'utiliser les paillettes de ce donneur-là qui est du coup sorti des fichiers. Voilà.
D'accord. Et donc là, c'est ta chérie qui fait tout le parcours ?
Et cette fois, oui, c'est ma conjointe qui fait le parcours.
Comment ça te fait quel effet, toi, de prendre l'autre rôle d'accompagnante ?
C'est étrange d'être de l'autre côté quand même.
Ouais.
Je m'attendais à avoir un peu plus de mal à le vivre dans le sens où. Ou comment dire, j'ai un petit côté très autoritaire sur l'organisation, un peu obsessionnel des fois, que n'a pas forcément ma conjointe, et donc du coup j'avais un peu peur de lui mettre trop la pression, j'avais peur de ne pas arriver à la laisser gérer, à l'époque elle m'avait vraiment laissé gérer mon emploi du temps, mon rythme, etc., et j'avais peur de ne pas arriver à la laisser s'accaparer le projet. Et finalement, j'espère en tout cas, j'espère que je lui laisse voilà, cette possibilité-là. Je me rends compte qu'effectivement, on ne se rend pas compte, quand on est à l'extérieur, de l'impact des piqûres tous les jours, des prises de sang, de la fatigue qu'on a, parce que bah, il faut se lever plus tôt pour aller faire la prise de sang avant d'aller au travail. Dans la journée, il y a un aller-retour chez le gynéco, donc ça veut dire bah, finir plus tard le soir pour rattraper les heures qu'on a perdues, etc. Quand on est à l'extérieur, on se rappelle pas forcément toujours. Il y a des fois où il faut vraiment que je réfléchisse et que je me dise « Ah mais oui, c'est normal qu'elle soit pas rentrée. Il est 20h et c'est normal qu'elle soit pas rentrée. Elle avait rendez-vous aujourd'hui, c'est normal. » Enfin voilà, c'est beaucoup de réflexion, et enfin je trouve le fait d'avoir vécu le premier parcours me permet de relativiser, on va dire.
Ouais.
Mais ça reste quand même compliqué, voilà. Et puis après, bah du coup, quand c'est toi qui vas en Espagne, c'est assez facile, enfin, entre guillemets, assez facile de dire, bon, bah, je prends mes billets d'avion et j'y vais. Quand, du coup, moi, je suis pas actrice, du coup, j'ai plus de mal à dire à mon chef, bah, écoute, une fois par mois, je vais pas être là, quoi. Mm. Donc, pour l'instant, j'ai pas pu forcément l'accompagner en Espagne. Heureusement, il y a ma meilleure amie qui habite là-bas, donc qui prend un peu le relais du soutien, mais... C'est vrai que bah, sur un deuxième parcours, voilà, on peut pas s'organiser de la même manière. On n'a pas forcément la personne disponible pour garder Alix au dernier moment. On n'a pas forcément les billets d'avion, enfin les horaires d'avion qui correspondent, comme dit, à une garde possible ou simplement à je prends ma journée voilà, au dernier moment. C'est à la fois plus compliqué et à la fois un poil plus zen parce qu'on connaît les choses. C'est un joyeux mélange de pas mal de choses, en fait.
Et tu peux lui donner des conseils aussi ?
Ouais, par contre, je lui ai fait... pour son premier cycle, je lui avais fait une petite frise, justement, qui récapitulait... Le premier jour du cycle, il faut appeler la clinique. Enfin, voilà, j'ai un peu récapitulé le protocole avec des petits dessins, des petits schémas, etc. Au moins, le temps qu'elle s'approprie le parcours pour pas avoir à stresser, voilà. Après, là, maintenant... Elle connaît les choses à peu près aussi bien que moi. Alors, moi, j'avais pas mal lu d'infos, justement, sur les résultats des bilans sanguins, etc. Donc, je pense que je suis un poil plus... Je vais pas dire formée, parce que c'est pas du tout le cas. Mais peut-être plus au courant de... Voilà, et j'arrive peut-être un peu mieux à anticiper. Bah, du coup, à mon avis, ça va être pour samedi, donc on peut commencer à regarder les billets d'avion, etc. Elle se laisse plus porter... Par la clinique, par le gynéco, etc. Mais au final, c'est deux choses. Voilà, on vit les choses pas forcément de la même manière, mais ça se complète assez bien. Mm. Donc.
Et tu disais que pour l'instant, ça fonctionnait pas. Ça aussi, vous le vivez un peu mieux
Ça dépend. pareil qu'à l'époque pour moi, le premier, bon, bah, entre guillemets, c'est normal. Le deuxième, bah, on avait un peu plus d'espoir. Puis je pense que. Plus ça va aller, plus il y a une espèce d'impatience qui se met aussi un petit peu en place, et du coup... Non, c'est pas plus simple. Ce qui est plus simple, c'est les 14 jours d'attente. Parce que quand on a un petit puceron de 20 mois qui saute dans tous les sens, ça occupe un petit peu les soirées, et on n'a pas trop le temps de cogiter à ce moment-là. Donc pour moi, ce qui est plus simple maintenant, c'est voilà, les 14 jours d'attente après l'insémination. Mais par contre, non, toutes les questions, tous les doutes qu'on peut avoir à chaque négatif, toutes les petites baisses de morale, etc. Enfin, ça, c'est. Je pense que ça sera à chaque parcours, quoi.
Et qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Qu'est-ce que ça a changé ? Je sais pas si ça m'a trop changé. Je suis peut-être un peu plus patiente, quand même. Parce que c'est pas mon point fort à la base. Et j'essaye de. Plus de prioriser les choses. C'est-à-dire que avant je pouvais paniquer quel que soit l'élément qui est perturbateur. Là maintenant j'arrive peut-être un petit peu plus à relativiser et à me dire bon bah est-ce que vraiment il y a mort d'homme si je sais pas je suis en retard de 20 minutes à un rendez-vous, non, voilà. Par exemple, voilà, je pense que ça a changé ma vision des choses. Dans l'ordre, le plus important, bah voilà, c'est ma famille. Ensuite, bah c'est le travail. Ensuite, c'est voilà. Mais il y a pas, il y a pas de.
Tu disais tout à l'heure sur ton post Instagram que ça t'avait donné du courage.
Ah oui, ça par contre, je suis quelqu'un qui a un peu une grande gueule quand j'ai pas les gens en face. Un petit peu moins quand il faut que je parle de... J'ai beaucoup de gens, de beaucoup de mal à parler devant les gens, en vrai. Donc ça, oui, ça m'a peut-être permis de sortir de ma zone de confort, de parler plus facilement de nous, peut-être aussi, parce que, bien que j'ai jamais caché ni ma famille, ni rien du tout, le fait d'en parler quotidiennement et voilà, d'aller à certains événements parentaux, etc. Enfin, c'est des choses que j'avais pas forcément envisagées à la base, hein. c'est pas mon monde. J'ai aucun but en dehors de l'ouverture de la PMA et de montrer justement la visibilité des familles homoparentales. J'ai aucun but personnel, on va dire, à m'afficher. Enfin, c'est pas quelque chose que j'apprécie, quoi. J'ai pas envie qu'il y ait ma tête sur des photos, forcément. J'ai pas, voilà, c'est pas quelque chose que j'aime. D'ailleurs, la plupart des photos, faut le dire, c'est des anciennes photos. Enfin, toutes les photos où je suis avec MC, la plupart, c'est des anciennes photos. Mais je pense que c'est quelque chose d'important. Et effectivement, maintenant qu'il y a Alix, c'est que j'ai encore plus une raison de me battre pour la reconnaissance de nos familles. Ouais, ça me donne une force que j'avais peut-être pas avant, ouais.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman lyonnaise ?
Il y a un petit côté... on a la chance à Lyon, par exemple, d'avoir des super parcs. Je pense au parc, par exemple, de Neuville-sur-Saône, qui est un chouette endroit. On a des... Bah, le parc de la Tête d'Or. On a plein d'endroits plus ou moins connus qu'on a envie de redécouvrir avec nos enfants. Bon, elle est un peu jeune par exemple pour la fête des lumières, mais j'ai hyper hâte de pouvoir l'emmener s'émerveiller devant ces lumières là. J'utilise et je fréquente, enfin je comment on dit, je vais souvent sur ce hashtag là parce que ça m'a permis de découvrir des endroits auxquels j'étais pas forcément retournée depuis qu'Alix est née, et j'aime les redécouvrir en me mettant peut-être à sa hauteur ou en essayant de voir ce qu'elle voit, qui est pas du tout la même chose que nous. Hein. La dernière fois, on allait se promener et elle est restée pendant 10 minutes devant un cadenas rouge parce que c'était un joli cadenas, mais voilà, c'est pas du tout ce que moi j'aurais regardé. Hein. Et ouais, c'est une manière de refaire découvrir des endroits et moi de redécouvrir des endroits. Et je pense que c'est ça le but de l'hashtag Maman Lyonnaise. C'est de partager des rencontres, que ce soit avec d'autres mamans justement qui viennent de la même ville, et du coup souvent t'as vu il y a cet événement, ou t'as vu il y a ce truc qui est organisé pour les gamins, t'y vas, moi aussi, c'est une petite manière de se rencontrer entre nous.
Et alors, quel est ton endroit kids friendly préféré à Lyon?
Mon endroit kids friendly, j'en ai pas vraiment. J'aime bien aller chez Symbiosa. J'ai fait pas mal de... C'est une boutique, en fait, qui propose des activités, J'ai fait les signes avec bébé là-bas, j'ai fait des ateliers portage, enfin voilà. C'est un endroit où on est bien reçu et j'aime bien y aller. Il y a une petite boutique qui est assez sympa aussi. J'adore le parc de Neuville, je le redis, mais franchement, il est vraiment chouette. J'aime bien tout ce qui est un peu organisé par la tribu lyonnaise. C'est des petits événements à droite à gauche.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Des projets rien que pour moi, j'en ai pas vraiment. Non, il y a notre prochain voyage. Là, pour les fêtes de fin d'année, on va à Strasbourg, dans ma famille. Donc, il y a le fait de faire découvrir un peu les marchés de Noël à ma fille, voir sa réaction devant le grand sapin de la place Kléber. Enfin, voilà, c'est des moments que j'ai envie de vivre. Je suis un peu impatiente, là. Après, on n'a pas spécialement de projet autre en ce moment que poursuivre notre maison, notre appart, nos travaux, etc. Et le projet PMA en parallèle, forcément. On n'a pas de grands projets pour le moment.
Merci beaucoup, Stéphanie.
De rien.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application préférée. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour échanger sur le sujet de la PMA abordé avec Stéphanie, laissez vos commentaires directement sous la photo de l'épisode 47 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.